Deutsche Welle Carrefour Europe.
De bonnes nouvelles pour le Portugal, un petit pays situé à l'ouest de l'Europe. L'Eurogroupe a décidé de lui verser la prochaine tranche d'aide. Le Portugal, considéré comme bon élève, a les faveurs des bailleurs de fonds. Mais la population est exsangue et l'économie en panne. Nous entendrons la colère d'une eurodéputée portugaise dans cette édition. Et puis nous remonterons au nord-ouest, direction l'Irlande, un pays qui, après une crise dramatique, est en voie de redressement. Mais là encore, la politique d'austérité risque d'étouffer la croissance et le pays renoue avec sa tradition d'émigration, comme a pu le constater notre correspondant dans ce reportage. Voilà le menu de cette édition pour un bref quart d'heure consacré à l'Europe et je vous souhaite la bienvenue.
Ver se encontrava a tua cara, por não te ver em nenhum lado, tornei-me amigo d'autre que là estava.
Le gouvernement du Portugal vient de boucler son projet de budget pour 2013. Il prévoit de nouvelles hausses d'impôts, même si le gouvernement a dû reculer sur un premier paquet d'austérité. Le pays, qui bénéficie d'un plan de sauvetage de l'Europe et du FMI, s'est appliqué à mettre en œuvre les plans de rigueur réclamés. Mais la récession économique et le chômage, qui touche 15% de la population, se sont aggravés. Manifestations et grèves se succèdent. Longtemps considéré comme un élève exemplaire par les bailleurs de fonds, le gouvernement doit désormais faire face à une grogne montante contre la politique d'austérité. L'eurodéputée portugaise Ana Maria Gomes, que nous avons joint à Bruxelles, nous explique pourquoi.
C'est une fabrication, cette idée de le Portugal être l'élève modèle. C'est vrai que le gouvernement a fait tout ce que la Troïka lui demandait. Ils ont même fait de trop. Mais la question, c'est que la recette de la Troïka était complètement contre-productive. Elle n'allait que provoquer ce qu'on voit maintenant au Portugal, la récession, le chômage à des niveaux jamais vus. Pas dans la dictature, on a vu ces niveaux de chômage au Portugal et l'injustice, l'iniquité des mesures qui sont imposées sur la population. Alors, le peuple se rebelle, bien sûr. On veut payer nos dettes, mais pour ça, il faut qu'on nous laisse respirer, qu'on nous laisse travailler, au contraire de détruire l'économie du Portugal.
Vous réclamez un pacte social. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
On réclame beaucoup plus. On réclame ce qui est notre droit en tant que membre de l'Union européenne, attaché aux valeurs de l'Union européenne, la solidarité, le modèle social européen. On veut bien sûr qu'il soit adapté aux conditions, mais qu'il y ait du vrai, pas la destruction du social au Portugal, soit l'éducation publique, soit la santé publique, soit la sécurité sociale. Tout ça est en train d'être détruit en ce moment. Un pays où les jeunes gens sont invités par le Premier ministre à émigrer est un pays mort. Et quand même, c'est la génération la plus qualifiée de tous les temps au Portugal. On est en train de l'exporter en Australie, au Brésil.
Alors justement, Madame Gomes, le Portugal a évidemment traditionnellement de grands atouts, ses relations avec l'Afrique et le Brésil, entre autres. Alors, est-ce qu'il fait assez d'efforts pour favoriser ses exportations vers ces marchés qui sont porteurs, alors qu'évidemment, le marché européen, notamment espagnol, est en recul et même en récession?
Justement, un comportement remarquable à cause de la crise et qui prouve l'adaptabilité des Portugais et comment ils savent bien travailler, c'est que justement, nos exportations sont en hausse malgré tous ces conditionnements dans les marchés traditionnels en Europe. Le problème, c'est que, en fait, beaucoup d'autres politiques de cette économie de casino qu'on a laissé dominer en Europe sont contre les intérêts du Portugal et elles n'ont qu'élargi le fossé entre le Portugal et les autres pays de la zone euro, notamment ceux comme l'Allemagne.
La colère de l'eurodéputée socialiste Ana Maria Gomes sur la recette trop amère appliquée à son pays. L'Eurogroupe estime pourtant que le Portugal pourrait retrouver son indépendance financière en 2013. Mais d'ici là, la récession qui touche toute la zone euro risque d'annihiler les efforts des Portugais. Colère et désespoir social en sont la conséquence. Une grève générale est prévue à la mi-novembre.
There's a pale, drooping maiden who toils her life away with a worn heart whose better days are o'er. Though her voice would be merry to sighing all the day.
Longtemps un pays d'émigration, l'Irlande est devenue le tigre celtique dans les années 90. Puis après des années de succès économique, c'est en 2008 l'année de la faillite de la banque Lehman Brothers, l'effondrement brutal. L'Irlande a fait alors des efforts considérables. Depuis 2010, elle a réduit son déficit budgétaire de moitié et doit arriver à 3% de déficit en 2015, comme elle s'y est engagée avec l'Europe et le Fonds monétaire international. C'est dans ce cadre que sera dévoilée début décembre la nouvelle loi de finances, avec au menu un troisième budget consécutif d'austérité. Notre correspondant Hervé Amorik a pris le pouls des Irlandais.
L'Irlande sort à peine de 4 ans de récession. La croissance revient lentement, notamment grâce aux entreprises comme Kynan, leader européen dans les technologies agricoles et la nutrition animale. Kynan exporte 90% de sa production. Le PDG, Gérard Kynan.
L'année prochaine, on prévoit une croissance de 25%. Nous employons 260 personnes. Cette croissance est le résultat d'un investissement dans les technologies innovantes. Nous pouvons apporter notre savoir-faire dans la nutrition et la préparation des aliments directement à la ferme, où qu'elle soit dans le monde.
L'Irlande n'a pas hésité à appliquer une politique de rigueur extrême. Le pays est considéré à nouveau comme le bon élève de la zone euro. Mais l'austérité est une arme à double tranchant, comme le souligne l'ancien directeur de l'Agence nationale du Trésor irlandais, Michael Somers.
Malheureusement, la croissance que nous allons dégager grâce aux exportations sera anéantie par la baisse de la consommation, particulièrement avec une loi de finances qui prévoit de réduire les dépenses budgétaires de 3 milliards.
Ceux qui vont une nouvelle fois faire les frais de ces coupes dans le budget de l'État sont les ménages aux revenus modestes. Comme infirmière, Kerry Cunningham gagne environ 2000 euros par mois. Juste assez pour payer la crèche de ses deux enfants et les traites de la maison qu'elle a achetée juste avant le crash immobilier. En 2 ans, l'État a réduit son revenu annuel de 20%. Et l'an prochain, les allocations familiales seront revues à la baisse. Kerry Cunningham.
On a de sérieuses difficultés financières. On ne glisse pas vers le gouffre, on est en train de couler. J'entends dire que l'Irlande commence à aller mieux, mais c'est faux. Si le nombre de chômeurs diminue, c'est seulement parce que les gens quittent le pays. Moi, je le vois au travail. 25% de mes collègues ont émigré, des jeunes femmes surtout. Ils ont de la chance de ne pas avoir d'emprunt à rembourser, ils peuvent partir. Nous, on est bloqués ici.
Selon les dernières statistiques, ils sont près de 90 000 à avoir quitté l'Irlande dans les 12 derniers mois pour l'Australie ou le Canada. 2% de la population a quitté le navire Irlande en un an. Mais il y a ceux qui ne peuvent plus émigrer. Beth Noonan a 78 ans, elle vit seule, elle est inquiète parce qu'elle vient de subir une opération et le gouvernement va réduire l'aide ménagère à domicile. Les hivers sont de plus en plus froids. Le prix du chauffage est en hausse et l'aide dont bénéficient les retraités pour se chauffer a aussi été réduite de 20% l'an dernier. Beth Noonan.
Le coût du chauffage va devenir un problème. C'est une priorité de se chauffer parce que si la température dans la maison descend au-dessous de 12 degrés, le risque d'attaque cérébrale ou de crise cardiaque augmente.
Pour la crise sans précédent que traverse l'Irlande, Beth Noonan blâme le gouvernement et les banquiers.
Les banquiers sont devenus fous et le gouvernement n'a rien fait pour les contrôler. Mais le gouvernement et le monde entier vont bientôt savoir ce qui se passe ici. Nous allons réagir. Nous descendrons dans la rue, nous nous défendrons.
En investissant sans mesure dans l'immobilier, les banquiers ont ruiné les petits épargnants et condamné les contribuables à l'endettement sur plusieurs générations parce que la dette des banques du pays a été versée sur les épaules des citoyens. Une banque en particulier est en cause, Anglo-Irish, aujourd'hui nationalisée. Au sommet de cette tour de verre, les banquiers ont perdu le sens de la mesure. L'État a nommé à la tête d'Anglo-Irish un économiste et ancien ministre des Finances pour faire l'inventaire des dégâts et fermer l'opération.
Alan Dukes, combien Anglo-Irish Bank a-t-elle coûté aux contribuables irlandais?
La prévision, c'est qu'à la fin de l'affaire, quand on aura terminé la banque vers 2020, elle aura coûté aux contribuables entre 29 et 33 milliards d'euros. Ça va coûter assez cher aux contribuables irlandais. Pour le contribuable européen, la question est différente parce que tout ce que nous avons reçu jusque maintenant, c'est en forme de prêts, des prêts remboursables par le gouvernement irlandais, aux fonds européens, aux fonds monétaires internationaux.
Les Irlandais ont promis de réduire de moitié leur dette souveraine à 60% du produit intérieur brut. Mais pour équilibrer le budget de l'État après 2013, Dublin risque fort de devoir demander un nouveau prêt à l'Europe. L'allègement de la dette n'est donc pas pour demain.
Un reportage signé Hervé Amorik depuis Dublin, en Irlande. Et puis dans ce contexte, rappelons que 11 pays européens, dont la France, l'Allemagne, mais aussi le Portugal, ont décidé de taxer les transactions financières. Cette décision est souvent fêtée, notamment à Paris, comme l'embryon d'une politique économique européenne commune. La réalité est plus floue, on ne connaît actuellement ni le type de produit concerné, ni l'impact sur les finances publiques des pays participants, ni même l'affectation des recettes qui pourraient s'élever d'ailleurs à 57 milliards d'euros si tous les pays européens y participaient. On en est loin, le Royaume-Uni notamment y est farouchement opposé. Quant à Berlin et Paris, ils ne sont pas d'accord sur l'affectation de cette enveloppe future. Voilà, il est temps de refermer cette page. Merci de nous avoir accompagnés. Si vous voulez nous envoyer un courriel, je vous rappelle notre adresse français@dw.de. Bonne suite de programme sur vos ondes, celle de la Deutsche Welle.